Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping RMC avec Rémi Barré, Benjamin Hamard, Juliette Briens et Fred Hermel. On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Êtes-vous prêt à accueillir un jeune délinquant chez vous? C'est en tout cas une idée du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti qui souhaite lancer une campagne d'accueil temporaire afin d'offrir un cadre de vie familial stable et sécurisant pour les jeunes ayant commis des infractions. Tout le monde peut se porter volontaire, peu importe son sexe, sa situation familiale ou encore son lieu de vie. Mais pour Anthony, auditeur RMC qui a déjà accueilli deux jeunes à son travail, eh bien cet accueil n'est pas si simple à mettre en place.
Moi, pour faire très simple, c'est déjà arrivé à deux reprises. Donc j'ai accueilli deux jeunes dans la structure dans laquelle je travaille. Étant moi-même issu d'une enfance un peu délicate, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de passer l'appareil et puis aider quelqu'un à sortir de la galère, tout simplement. Sauf que les deux fois, ça s'est super mal passé. Il y en a un qui répondait à chaque fois, qui ne voulait pas écouter les conseils, qui ne voulait pas être formé. Il n'y avait pas l'acceptation de la hiérarchie, il n'y avait pas l'envie d'apprendre, il n'y avait pas toutes ces choses-là.
Alors, est-ce que vous seriez prêt à accueillir un jeune délinquant chez vous? Alors, l'idée comme ça, elle peut être séduisante, Benjamin Hamard, mais enfin, je me dis qu'il faut quand même quelques compétences. Déjà que la plupart des parents de ces délinquants n'y arrivent pas, la police n'y arrive pas, donc c'est un peu compliqué pour une famille d'accueil.
Ouais, on n'est pas dans un épisode de Mimi Mati, on est dans la vraie vie, donc il faut arrêter de délirer.
Mimi Mati pourrait peut-être.
Oui, Mimi Mati, elle pourrait, ça ferait un super scénario, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle la réinsertion. Il y a un travail qui s'appelle le travail d'éducateur spécialisé. S'il s'agit de délinquants, il y a la protection judiciaire de la jeunesse. Tout ça, c'est des métiers. On ne s'improvise pas. Et donc, bien évidemment, il n'y a rien d'étonnant à entendre cet auditeur dire que, alors, il part plein de bonnes intentions. Mais oui, ça ne s'est pas bien passé parce que ces jeunes, puisqu'il faut enfoncer les portes ouvertes, ont un problème avec l'autorité, ont des soucis familiaux. Et tout ça, ça ne se règle pas d'un claquement de doigts parce qu'on est sympa et qu'on lui a offert un café. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle une fausse bonne idée parce que tout simplement, on n'a pas les moyens pour les structures nécessaires. Et donc, on fait du bricolage et c'est très dangereux.
Mais vous êtes prof, par exemple, vous savez quand même encadrer des jeunes. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous séduire?
Non, mais alors, d'abord, c'est encore un autre métier, parce que ça y a tout un aspect de métier de travailleur social, que je respecte hautement, mais c'est pas du tout, moi, les métiers que je voulais faire. Et d'ailleurs, on a des fois des profils d'élèves en très grande difficulté, des profils spécialisés. On ne s'improvise pas. Ce sont des métiers à part, il y a une formation spécifique. Bien sûr, l'autorité fait partie des vertus à avoir, mais pas seulement. Et on ne s'improvise pas sur ces métiers-là.
Juliette Briens, est-ce que l'idée est séduisante ou pas du tout, selon vous?
Oui, évidemment, mais l'idée, elle est grotesque. Mais moi, je pense qu'il ne va pas beaucoup sur le terrain, Éric Dupond-Moretti. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois qu'il a vu un délinquant.
Il peut en avoir
quand même.
Mais franchement, c'est quand même assez inquiétant.
Il peut en accueillir chez
avec
lui,
la violence qui monte et qui ne cesse de grimper, particulièrement chez nos jeunes aujourd'hui, et qu'on réclame de la fermeté, qu'on réclame la fin du laxisme, qu'on en soit encore à proposer des idées aussi grotesques que on va aller placer des délinquants dans des...
Mais c'est pour avoir un cadre de vie stable.
Ridicule.
Pour les changer de leur quotidien.
Ils ont pas alors on fait quoi? Enfin,
vous êtes pas très généreuse quand même.
Ils ont pas de parents, ces délinquants.
Bah si, ils ont des parents, mais qui sont défaillants, puisque ça... Voilà. Bah, donc on les met avec des parents non défaillants, tu vois, avec un cadre vie stable, j'imagine, un intérieur. Enfin, ils doivent pas vivre à Versailles, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, tu leur offres un cadre de vie peut-être plus verdoyant, peut-être plus grand, avec une structure familiale stable. La plupart des gamins, effectivement, en infraction, ils sont issus de familles monoparentales.
Mais les gamins, ils sont dans un tel état.
Non, mais j'entends.
Faut se rendre compte de ce que c'est. Enfin, quand on est multidélinquant à 14-15 ans, on est dans un état qui n'est pas réparable simplement par un petit cadre et un petit bout de jardin. Enfin, c'est ridicule. Il faut des professionnels. Il faut pas. C'est genre. C'est...
Bah oui, mais ça marche pas.
C'est inquiétant. Je vous dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge dans ce pays.
Je vais vous surprendre.
Oui.
Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand l'État se décharge sur les citoyens. Parce que là, c'est la faillite de l'État qui dit ah bah ouais, bah, faites ça les citoyens. Alors, à la maison, non. Par contre, en entreprise.
C'est dommage parce que, alors là, vous savez quoi, j'aurais tout de suite mis une caméra chez vous et j'aurais fait un doc pour RMC Story, vous voyez.
Oui, non, mais déjà, je pense qu'une autre personne que moi chez moi, c'est problématique.
Oui, voilà. Donc,
voilà, c'est déjà. C'est... Déjà, moi-même, avec moi-même, c'est dur. Donc,
déjà, il aurait pas eu le droit de toucher le marteau. Enfin, bon, bref, alors continuez. Non.
Par contre, l'insertion dans l'entreprise, j'y crois. Par le travail. Ça oui. Ça vraiment j'y crois parce que à un moment et il y a des passions, il y a des gamins. Alors quand ils ont 18 ans, c'est fini, mais quand ils ont 13 14 ans, je pense qu'ils sont encore récupérables.
Normalement à 13 ans, on n'a pas le droit de travailler, vous savez ça.
Non, bah l'apprentissage ça peut commencer aussi un peu. Bah oui, mais ben tu vois, il y a des trucs, tu commences à travailler le bois, il y a des passions qui peuvent se je pense vraiment que des gamins qui font que des conneries et du jour au lendemain, on leur donne une petite responsabilité à construire quelque chose, d'être avec des maîtres, des maîtres qui leur apprennent un métier, enfin je veux dire je crois que c'est possible, pas à la maison, mais dans des entreprises, dans des ateliers, etc., avec, bien entendu, l'encadrement dont parlait Benjamin, qui est évident. Je pense que l'insertion, plus que par la vie chez les gens, elle passe par le travail et la découverte d'un métier.
Il faut Pascal le grand frère qui...
Oui, c'est ça. Les grandes gueules ce matin sur RMC. On va parler d'uniformes à l'école. Le gouvernement nous prend-il pour des imbéciles alors que la promesse de l'État était que les uniformes fournis aux élèves seraient fabriqués en Europe? Eh bien, des parents de la ville de Puteau, en banlieue parisienne, ont découvert que ceux-ci avaient été fabriqués au Bangladesh et au Pakistan. Donc, pas en Europe, évidemment. Deux pays qui ne respectent pas tout à fait les normes sociale et environnementale, et ça scandalise la chef d'entreprise Flora Gebali.
C'est extrêmement grave et extrêmement choquant, et le fait qu'on puisse pas demander du Made in Europe dans un cahier des charges public, c'est scandaleux. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'un cahier des charges public, aussi compliqué qu'il soit, parce que nous on répond avec mon entreprise à des appels d'offres publics, je peux vous dire qu'on passe un temps fou dans de l'administratif, n'arrive pas à imposer ces conditions. Il faut respecter l'industrie européenne et l'industrie française, il faut produire en France et en Europe, non seulement parce qu'en le faisant ailleurs on ne respecte pas les droits de l'homme, mais en plus parce que voilà un marché formidable pour les entreprises de textile européennes. Donc soutenons l'emploi local aussi.
C'est quand même un gros couac, hein, Benjamin Amar, ça ne commence pas très très bien. Et pourtant on y croyait quand même.
Alors vous y croyez peut-être, oui. Moi vous savez très bien ce que j'ai dit sur tout cela.
Oui, je sais bien, oui.
Un grand sujet gadget qui fait bien, on l'a bien vu tout à l'heure avec le sujet du proviseur, que les problèmes de l'école en aucun cas ne seront résolus par ce genre de situation. Mais alors en plus dans la mise en œuvre, visiblement, ça a l'air bien, comment dire, bien bordé. Alors bien sûr, l'État va se défausser sur la ville c'est la ville qui a commandé cela.
Parce que la ville, elle a essayé de commander une Made in France, t'imagines, elle a vu le prix, elle a dit attendez, au Bangladesh, c'est 8 fois moins cher.
Voilà une problématique que le gouvernement aurait pu anticiper avant de faire des grandes annonces à Uadia.
C'est pas faux.
Et donc, on est moi tout à l'heure, enfin, ce que je disais au moment où il y a eu tous ces grands discours, c'était que, avant tout, le gouvernement communiquait, il faisait de la com à peu de frais. Et quand on vient dans la mise en œuvre concrète, et bien tout à coup, le réel toque à la porte. Et les contraintes du réel aussi. Donc, attendez, on est au stade de l'expérimentation. Oui, attendez de voir qu'on arrive à la généralisation. Croustillant.
Fred Hermel, il faut la continuer, cette expérimentation. Pardon.
Oui, parce que moi, j'y crois. J'aime ça.
Après, même si les uniformes sont fabriqués au Bangladesh.
Après, c'est la ville de Puteau qui a reconnu une erreur, puisque suite, en disant que ça se reproduisait plus, que ça devait être des vêtements faits en Europe. Donc normalement au Portugal.
La ville de Puteau dit que normal, ils avaient prévu. Voilà.
Au Portugal.
Effectivement, mais compte tenu du délai extrêmement court. Oui. De l'expérimentation, puisque elle a déjà débuté, ils ont payé les uniformes n'auraient pas été prêts.
Ils sont bien gentils, quoi, mais il y avait un piège de la taille d'un puits, ils ont pris de l'élan et ils ont sauté dedans à pieds joints. À un moment donné, il y avait un piège. Je pense même que j'y avais pensé. Je me suis dit, avant, quand ils ont annoncé l'expérimentation, je me dis, imagine, il y a un con. Quelque part en France, ils commandent des uniformes pas en France. Et je me suis dit ça dans ma tête. Et c'est quand même fou. Tomber dans ce piège, c'est fou. Après, ça enlève rien à peut-être l'efficacité de l'uniforme. Mais là, ça, c'est vraiment désastreux, quoi.
De toute façon, on attend les résultats de cette expérimentation d'ici quelques mois. Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il interdire les trottinettes électriques? À compter d'aujourd'hui, tous les conducteurs de trottinettes électriques vont devoir respecter le code de la route au même titre que les vélos. Mais sont-ils vraiment prêts à le faire? Pas sûr, comme l'a constaté notre reporter RMC à Lyon.
Utilisateur régulier des trottinettes partagées, Nathan n'est pas forcément très à cheval sur le code de la route.
Quand il n'y a personne au feu rouge, on passe et bon, on prend un sens interdit de temps en temps.
La faute, en partie, à des règles pas très claires selon cette trottinettiste quasi quotidienne.
Ils se disent qu'ils peuvent à la fois aller sur la piste cyclable ou alors sur la route et du coup, ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Quoi.
Pour certains, aligner la signalisation sur celle des vélos est donc une très bonne nouvelle.
Plus les mesures seront drastiques, entre guillemets, et coercitives, plus ça sera respecté.
Mais pour d'autres, ça ne changera rien.
Le problème, c'est pas les vélos qui sont en cause, ni les trottinettes. Ce sont les gens qui sont dessus.
Oui, oui, évidemment, le monsieur de la fin a plutôt raison. Évidemment, est-ce qu'il faudrait les interdire purement et simplement ces trottinettes électriques, Benjamin Hamard?
Alors moi, je suis un ancien conducteur de trottinettes électriques. Mmh. Et très rapidement, j'ai respecté scrupuleusement, j'ai mis mon casque, etc. Mmh. J'ai vu des trucs de dingue, mais vraiment des comportements de fous furieux. Comme disait la personne qui était interviewée, c'est-à-dire en fait, on est sur la trottinette comme on n'avait pas visiblement un certain nombre de règles, on n'avait pas les mêmes règles que les cyclistes. Mmh. Alors, on faisait à peu près ce qu'on voulait. J'avais fait un petit décompte. Il y avait 90% des utilisateurs de trottinettes qui respectaient pas les feux.
Voilà. Ah bah oui.
Et moi, je les respectais régulièrement. Ça pouvait arriver que d'autres conducteurs de trottinettes me fassent la remarque. Mais enfin, pourquoi tu t'arrêtes? Donc, je pense que la solution, c'est que tout simplement, on mette en œuvre effectivement des mesures drastiques de contrôle et d'exigences strictes du code de la route, comme par exemple pour les vélos. Et qu'il y ait donc de la verbalisation, les gens vont comprendre comme ça.
À Paris, comme il n'y a pas de plaque minéralogique pour les retrouver, bonjour.
Non, mais sur le fait, déjà. Et honnêtement, par contre, j'avais remarqué une chose. À Paris, les infractions étaient 10 fois supérieures aux villes de banlieue. C'est-à-dire que à Paris, c'était une zone de non-droit absolu.
Mais t'as 10 fois plus de pistes aussi, donc...
Ouais, tu prennes des pistes.
Oui.
C'est aussi une infraction. Moi, encore hier...
T'as le droit, en trottinette, de prendre la piste cyclable.
Oui, ils la prennent. Parce que je pense à toi, tu sais qu'en sortant de la radio, on a une piste cyclable.
Oui, ça je sais bien, oui.
Hier, j'ai été croisé par un gars sur une trottinette électrique. La piste était à 20 cm de lui.
Merci.
Et non, d'accord. Il était sur le
trottoir. Toi. Merci, moi ça m'arrive tous les jours. Et les vélos, pareil.
Frédéric, vous m'avez excédé.
Ah non, mais moi, ce genre de truc. Alors moi, je pense sincèrement que la trottinette est un signe de la décadence de la civilisation.
Carrément.
Franchement, un mec de 50 berges sur une trottinette, je pense que c'est horrible.
Et il a pas le droit.
Non, mais les trottinettes, c'est quand on était petit à partir de 15 ans, on doit se moquer, quoi. Franchement, non, mais même pas.
Ah, c'est super sympa à conduire.
Mais non, mais t'as plus de 12 ans, t'es sur une trottinette, mais on doit.
Je vois pas le problème. C'est très sympa.
On va faire une loi pour lutter contre la discrimination des gens qui se moquent des gens qui sont sur des trottinettes. Mmh. Alors si c'est les mêmes règles que les vélos, ça veut dire c'est la foire d'Empoigne, parce que personne, les vélos, il y a rien pire que les vélos. Mais franchement, aujourd'hui à Paris, comme c'est plus en libre-service, parce que nous sommes beaucoup à avoir voté non à l'interdiction du libre-service, c'est vrai que ça s'est quand même amélioré, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de trottinettes, déjà.
C'est dommage. Moi,
le problème, ce sont les vélos qui ne respectent rien. Tu parles de cette trottinette là sur le trottoir là en ce moment du bureau, et moi tous les jours je vois des vélos. Et l'autre jour, j'ai même vu quelqu'un avec le même badge que nous. Je lui ai dit, je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, cher collègue, vous avez une piste là. Il était à 30 cm, il était sur le trottoir. Mais c'est une question d'éducation.
Moi, je suis pour
le fait qu'il y ait des plaques minéralogiques sur les trottinettes, sur les vélos. Et je veux te dire que le déficit de l'État, on va le régler en 15 jours.
Allez, on termine avec Apolline Matin. Allez-vous manger du chocolat à Pâques alors que le prix de la tonne de cacao vient d'atteindre le prix record de 10 000 $? Les œufs et les poules que vous achèterez pour offrir aux enfants ce dimanche ont vu leur prix augmenter plus haut que l'inflation. Et les consommateurs s'adaptent déjà, comme l'ont constaté nos reporters RMC à la sortie d'une grande surface.
On se laisse pas avoir, on n'est pas des pigeons quand même. Hein. Donc on fait attention, on en achète moins, mais on achète du bon.
J'ai des œillères. Le chocolat, c'est trop bon. Je regarde pas, j'avoue. Moi, je regarde justement le prix au kilo. Et des fois, passe du simple au triple, facile. Puis en plus, on est des enfants, donc il faut au moins qu'il y ait un Kinder dans le lot, sinon ça fait la tronche.
Est-ce qu'on est obligé de manger du chocolat à Pâques, lui?
Non, on n'est pas obligé de manger du chocolat à Pâques. Moi, je le ferai pas. Je vais pas commencer à me gaver de chocolat.
Tu peux manger un petit peu
avant l'été, quoi. Non. Si j'avais des enfants, par contre, on est obligé de faire Pâques avec ses enfants. C'est très sympathique. Mmh. Moi, j'ai toujours pas d'enfants, donc je vais passer sur le chocolat pour ce Pâques.
Moi, je cache des œufs chez moi et je fais ma propre petite chasse. Mais il faut respecter les traditions de
vous avez
beaucoup.
Vous avez une vie palpitante, Fred Hermel. Bon.